Et aujourd'hui, nous sommes à Saint-Sauveur-en-Puisé, dans l'Yonne.
Aurélie Spez, rendez-vous, place du marché.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Saint-Sauveur-en-Puisé en Bourgogne. Hier, vous étiez à Champigny-sur-Marne avec Antoine Lee et nous, on est ici, en Puisé, dans le pays de Colette. Et un été avec Colette, c'est tous les jours dans la matinale de France Inter avec Antoine Compagnon. Alors on s'est dit, pourquoi pas? Si on vous emmenait pour de vrai chez Colette, dans son marché, dans son café, dans sa rue, dans sa maison, voilà, on y est à Saint-Sauveur-en-Puisé, au nord-ouest de la Bourgogne et à 1h30 de Paris. On nous dit que depuis que la maison de Colette a ouvert ses portes, ça ramène du monde et que le village revit. Colette la paria, Colette la mal-aimée, la sorcière à qui les habitants de Saint-Sauveur jetaient des pierres. Elle est aujourd'hui sacrée reine en son pays, la fierté locale et touristique de la région. La Sainte Sauveuse, c'est elle. Hier, j'ai croisé Françoise et elle m'a dit « C'est simple, Saint-Sauveur avant c'était mort. Heureusement qu'on a Colette. Sa famille en a bavé ici. » Mais elle adorait sa maison. Dans les premières pages de Claudine à l'école, Colette raconte « C'est un village pas très joli et que pourtant j'adore. » Plus tard, elle écrira « J'appartiens à un pays que j'ai quitté. » Alors Saint-Sauveur-en-Puisé, c'est un pays d'oxymore, un pays qu'on déteste et qu'on adore. Tout autour de nous, il y a des petites collines et des forêts douces, des belles maisons bourgeoises et des ateliers d'artistes. C'est un Éden provincial avec une pointe de nostalgie qui plane. Depuis un an, les maisons partent comme des petits pains ici. Effet Covid, effet Colette, exode urbain, Saint-Sauveur accueille les citadins exilés en mal de verdure, de calme et de poésie. Et nous, on est ici, attablés dans la cour du Point Bar, juste en face du marché qui a lieu en ce moment sur la place, et avec nos invités et deux camarades qui nous jouent de la musique, Anatole et David à la guitare, juste derrière nous. Et on est reçus par vous, le taulier Jean-Christophe Pichereau, bonjour.
Bonjour et bienvenue à France Inter.
Merci beaucoup, ici c'est le Point Bar. Le Point Bar, c'est le point chaud.
Bah, manifestement, ça a l'air d'être le point chaud, j'en suis ravi d'avance. Oui, ici c'est un peu le lieu de rencontre, voilà, on boit des verres, on lit des bouquins, on se rencontre, on fait du cinéma, on écoute de la musique. C'est un lieu de vie en fait, c'est toujours ce que j'ai voulu avoir dès le début. Je voulais que ça soit un passage, que les gens puissent passer, s'arrêter, discuter, mélanger l'autochtone, le parisien, enfin voilà, que les gens puissent avoir un rapport, un contact ensemble, partager des choses à Saint-Sauveur, puisque le village s'y prête, évidemment.
On est dans la cour de votre café, c'est une cour que vous avez entièrement refaite, de briques, de brocs, mais savamment organisée. C'est super sympa, vous avez amené des camarades, Anatole et David, qui nous jouent un petit duo de guitare. C'est souvent comme ça, c'est pas juste pour France Inter.
Non, c'est souvent comme ça. En fait, j'aime bien quand c'est le jour de marché parce que, en fait, les gens peuvent profiter évidemment de la cour intérieure qui est un ancien relais de poste du début du siècle et en même temps avoir une petite touche musicale. Ça fait le petit plus et c'est agréable parce que ici il y a beaucoup de courants d'air donc ça fait un petit passage dans le vent et du coup on s'y sent bien au frais.
Et avec nous, vous êtes là aussi, Frédéric Magé. Bonjour.
Bonjour.
Frédéric, vous êtes le directeur de la maison de Colette. Vous avez réhabilité Colette ici à Saint-Sauveur.
C'est elle-même qui s'est réhabilitée et ce sont ses lecteurs, ses lectrices, ses habitants du village qui l'ont élue. Hein. Vous savez, Colette a été élue, je crois, il y a une dizaine d'années, personnalité la plus emblématique de Lyon par les Iconets. Donc c'est d'abord les habitants qui revendiquent Colette. Moi, je ne suis là qu'un passeur.
Est-ce qu'elle serait venue dans ce café-là, comme nous, au Point Bar, hein, si elle était vivante aujourd'hui? Est-ce qu'elle viendrait dans son ancien village boire un petit café avec nous?
Sans doute, elle viendrait boire un petit café et surtout goûter ces petites choses que je vois posées devant moi parce que, comme elle le disait, j'aime être gourmande. La gourmandise est essentielle pour Colette, mais la convivialité, l'amitié aussi, hein, l'amitié peut beaucoup, disait Colette.
On est bien sur France Inter, ici à Saint-Sauveur, en Puisé, dans la cour du Point Bar, juste en face du marché. on va commencer cette émission en musique, puisque Colette aimait la musique et que vous aussi vous aimez la musique, Jean-Christophe.
Oui, bah moi je viens d'un milieu musical en fait. J'ai été 25 ans ingénieur du son en audiovisuel et dans les concerts. Donc la musique est très importante pour moi. Et je pense aussi que les gens viennent chez moi parce que je mets de la musique et ils aiment ma musique. Donc ça tombe bien puisque moi c'est exactement ce que je recherche en fait.
Alors vous allez nous lancer le disque puisque vous êtes un peu DJ.
Oui.
Qu'est-ce qu'on va écouter ?
Alors on écoute Coquelicot de Laura Cahen et Yael Naïm, évidemment.
Et c'est une programmation de Djoubaka.
Et je salue Djoubaka d'ailleurs, que j'aime beaucoup.
On salue Djoubaka et les Coquelicots que Colette adorait.
Colette aimait beaucoup toutes les fleurs, évidemment, et elle a passé sa vie à célébrer les éclosions, celles des fleurs, celles des hommes et celles des animaux.
Ne reste-t-il que les épines ou un grand feu de bois ? Bourgeons un beau jour, la glycine danse sur le toit.
Frédéric Magé, vous tombez amoureux de Colette quand vous êtes adolescent. À la bibliothèque du Plessis-Trévise, vous empruntez La Vagabonde de Colette. Et là, c'est le choc, c'est la révélation.
Oui, c'est une rencontre, hein, parce que c'était elle, parce que c'était moi, en quelque sorte. Ben, en tout cas, ça a été pour moi une forme de révélation, une façon de regarder le monde, une façon d'en parler, un goût des mots, un goût des êtres aussi, une façon de parler des rapports hommes-femmes, de parler la liberté des femmes. Tout ça m'a beaucoup marqué, et ça a été le début d'une aventure qui dure depuis une trentaine d'années maintenant.
Est-ce qu'on lisait chez vous à la maison, Frédéric ?
Moi, j'appartiens à une famille de gens qui sont plutôt des scientifiques, on va dire. Ma mère était infirmière, mon père était quincaillier, mais les livres avaient une place importante quand même. Donc, très tôt, j'ai eu accès à des livres, mais la bibliothèque municipale de ma ville a été essentielle. C'est là que j'ai vraiment fait, entre guillemets, ma culture, que j'ai découvert beaucoup d'auteurs qui n'étaient pas forcément des auteurs estampillés éducation nationale, on va dire. Voilà.
Mais c'est vrai qu'on n'apprend pas Colette à l'école.
Non, ne l'apprenez pas. Ça va changer puisque Colette est au programme du baccalauréat à partir de la session prochaine. J'espère qu'elle va s'inscrire durablement. Julia Kristeva, que je rencontrais il y a quelques jours, m'a dit « Mais il faut qu'on prenne rendez-vous avec le ministre et qu'on lui demande de faire étudier les textes de Colette dès l'école primaire. Oui. » Pourquoi pas ? Effectivement, parce que Colette est une autrice qui nous reconnecte avec le vivant, sont des mots qui ont une odeur, qui ont une saveur, qui ont du goût et qui nous ramènent peut-être à l'essentiel, c'est-à-dire à notre relation au monde et à la nature, à une époque où on a tendance à être déconnecté.
Vous avez écrit « Les sept vies de Colette ». C'est ce gros bouquin posé sur cette table. À votre avis, est-ce que les femmes romancières sont délaissées dans les programmes de l'éducation nationale ?
Bah certainement. À Saint-Sauveur-en-Puisaye, on a créé il y a 10 ans le Festival international des écrits de femmes pour dénoncer cette situation. Dans les manuels scolaires du secondaire, au collège et au lycée, les femmes, c'est entre 3 et 5% des auteurs qui sont cités. C'est peu, c'est rien. Et la façon même dont elles sont présentées de façon traditionnelle pose question. Quand on rappelle à chaque fois qu'on parle de George Sand qu'elle a d'abord et avant tout été la maîtresse de Chopin, bon, ça me pose question. On ne dit pas de Victor Hugo, on ne commence pas à présenter Victor Hugo en rappelant la liste de ses maîtresses. Donc même la façon de présenter ces femmes pose question. Et donc il y a toute une façon et toute une pédagogie pour aborder ces femmes. Non pas en les isolant, mais en les réintégrant dans notre histoire.
Il paraît qu'avant que la maison de Colette réouvre ses fenêtres et ses portes, c'était pas aussi vivant qu'aujourd'hui. Là, on voit qu'il y a quand même une activité. On voit que c'est quand même très dynamique, Saint-Sauveur.
C'est vrai que depuis l'ouverture de la maison, j'ai constaté il y avait plus un seul restaurant dans le village. Depuis, il y en a 4 qui ont ouvert. On parle même d'un cinquième. On a un salon de thé anglais, on a un traiteur. On vient de parler de Sébastien. Dans la principale rue, la rue de la Roche, qui est juste là, et beaucoup de boutiques étaient fermées. Elles ont la plupart été reprises. Et beaucoup de maisons qui étaient à l'abandon ont aussi été reprises. Donc, c'est un ensemble de choses. Effectivement, probablement que la maison de Colette, par le flux de visiteurs, par la réputation, le fait qu'on en parlait dans les médias, a attiré du monde. Mais ce sont ces personnes aussi qui sont venues, qui ont mis leur énergie, mis leur compétences, mis leur goût au service du village. Donc c'est un cercle vertueux. Colette est le point de départ, mais elle fédère autour d'elle beaucoup d'initiatives extrêmement différentes et qui participent de la vie, de la richesse et de la notoriété de Saint-Sauveur.
Ça vous dit qu'on aille se balader dans ce marché ? On revient, Jean-Christophe, tout à l'heure pour l'apéro.
Tout à l'heure, avec grand plaisir.
À toutes. Et monsieur le maire, vous nous avez rejoint. Bonjour.
Bonjour. Je suis ravi que vous soyez là aujourd'hui pour découvrir notre marché. Un marché rayonnant, vous devriez venir plus souvent, parce que là, on a un soleil magnifique.
Alors, à chaque fois, on apporte le soleil. Hier, il pleuvait, maintenant, il fait beau. C'est dans chaque village, pareil. Voilà. Il faut qu'on monte une petite station France Inter un peu partout.
Exactement. Il faut avoir un stand régulier sur notre marché, notre beau marché de Saint-Sauveur-en-Puisaye.
Frédéric Magé, est-ce que Colette serait venue au marché ? Les habitants de Saint-Sauveur n'étaient pas tendres avec les Colettes. Et Colette n'était pas tendre non plus, en revanche, dans ses bouquins, quand elle parle des habitants de Saint-Sauveur. Alors, elle se venge.
Oui, il y a beaucoup de périodes que vous évoquez. Elle a d'abord été très heureuse dans ce village, et sur cette place du marché en particulier. Mais cette place du marché, c'est évidemment le lieu où on se rencontre, on vient faire des courses, mais c'est aussi un lieu où on parle. Oui. Et on parle beaucoup des Colettes, qui sont des gens un peu hors normes. D'abord, ce sont des étrangers, parce que les parents de Colette ne sont pas de cette région. Son père est toulonnais, sa mère vient de Belgique. Ce sont des gens qui ont des idées très originales pour l'époque, des idées, disons, qui ne passent pas très très bien à Saint-Sauveur à la fin du 19e.
Quel genre d'idées ? Ils sont trop libres ?
Ils sont très très libres et très provocateurs déjà. Sido, par exemple, on le sait, la mère de Colette est profondément athée, mais elle emmène son chien aboyer à la messe pendant l'élévation pour embêter le curé. Elle recueille les filles mères qui sont chassées des propriétés en leur demandant d'assumer très librement leur maternité. Quand des gens sont dans le besoin et qu'aucun bourgeois ne veut les aider, elle va frapper à la porte des bourgeois pour les forcer à aider un enfant qui vient de naître, par exemple. Donc la liberté de penser, la liberté d'action de cette famille ne passe pas bien et on commence à les traiter assez rapidement. Colette l'emploie ce mot comme des parias, c'est-à-dire des gens absolument infréquentables, ce qui fait que la maison de Colette d'ailleurs restera dans l'imaginaire de Colette une forme de citadelle qui protège d'une hostilité du village.
Elle le dit d'ailleurs que c'est une citadelle.
Voilà, une citadelle, mais elle va rajouter aussi une relique. Donc en fait, dans un premier temps, effectivement, quand elle va écrire Claudine à l'école sur la suggestion de Willy, bon, elle en a gros sur le cœur.
Willy, son mari.
Son premier mari, parce qu'elle a dû quitter ce village, ce paradis de son enfance, dans des conditions un petit peu difficiles. Ils ont dû vendre la maison, ils ont dû vendre surtout une grande partie du mobilier, la réputation de la famille était terrible, ils ont dû renvoyer les domestiques, enfin bon, tout ça a été très difficile. Et donc quand elle épouse son premier mari Willy, qui lui suggère d'écrire ses souvenirs d'écolière, elle se venge. Elle se venge des habitants de Saint-Sauveur et elle va les caricaturer à la fois cruellement et drôlement dans Claudine à l'école, ce qui ici va faire effectivement l'effet d'une bombe, il faut vous imaginer.
Elle se moque de l'institutrice, elle se moque des filles de sa classe qui ne trouveront pas de mari, elle est déjà dans l'autofiction, elle est déjà dans le livre Revanche.
Oui, on dit d'ailleurs que Colette a inventé l'autofiction. Mais effectivement, elle, pour Colette, l'écriture est chargée de changer la vie et parfois aussi de la venger. Donc dans un premier temps, elle va se venger effectivement des habitants de Saint-Sauveur. Mais cette vengeance va laisser un goût amer à Colette. Et elle va parler d'ailleurs de l'inconscience de nuire. Et très rapidement, même dans la série des Claudines, dans Claudine en ménage, une nostalgie pointe. Et la maison, à partir notamment de la maison de Claudine en 1922, va véritablement devenir le paradis perdu de l'enfance. Plus de remords, plus de rancune, il reste que la plus belle part des souvenirs. Et Colette va donner à son village et offrir à ce village, à ce pays, sans doute un des plus bels hymnes littéraires qu'on ait dans notre littérature.
Monsieur le maire, on parle de l'hostilité, de l'animosité au début avec des habitants de Saint-Sauveur envers la famille Colette. Ils ont bien changé, les habitants ici. Quand on vient de l'étranger, quand on vient de l'extérieur et qu'on est libre et qu'on est rebelle, on est accepté aujourd'hui, les temps ont changé.
Bien sûr, au contraire, le temps a fait son œuvre et aujourd'hui on est tout à fait sur quelque chose de différent et au contraire, chacun a sa place ici avec ses différences et c'est peut-être ce qui fait qu'on se sent bien Saint-Sauveur, d'où qu'on vienne.
Ça a amené du monde. Frédéric nous disait en micro qu'on vendait 60 maisons par mois. Donc depuis le Covid, les gens achètent des maisons ici, les prix augmentent aussi. Il y a un effet Covid, un effet Colette.
Oui, je pense qu'avant même l'effet Covid, il y avait déjà un effet Colette. Hein. Depuis l'ouverture de la maison natale en 2016, on voit que des commerces qui vivent mieux grâce à Colette ou qui ont ouvert grâce à Colette, ils sont très nombreux pour un petit village de moins de 1000 habitants. C'est extraordinaire. Là où toutes les communes autour de nous ou dans notre strate de communes a du mal à survivre, nous, on est en train de chercher des endroits pour justement installer nos nouveaux commerçants. On a aussi, de manière concomitante avec l'ouverture de la maison, et on a aussi l'arrivée de commerces qui ont été très importants pour le village, et notamment cette brocante bouquiniste. Le côté bouquiniste au Pays de Colette nous apporte quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Les gens viennent chiner, passent des heures, certains restent enfermés puisque on est dans un labyrinthe d'étagères.
Venez, on y rentre. On va dedans.
Voilà, on va essayer de pas s'y perdre.
Là, ce qu'on voit, c'est quand même très très beau. Il y a aussi une belle cour brocante. C'est un labyrinthe ici.
Voilà, c'est
le. C'est paradis, la caverne d'Ali Baba.
Voilà, le paradis des chineurs. On a des choses très variées et qui arrivent. Voilà, là est arrivé il y a une dizaine de jours une tête d'orignal. Rien à voir avec Saint-Sauveur, mais vous voyez, on trouve de tout.
On trouve des tableaux, des animaux empaillés, des vieilles horloges, tout un tas de trucs, des fringues, des BD. Enfin, c'est une brocante énorme.
Ouais.
Et vous êtes là, vous ?
Bah, bien sûr.
Vous étiez juste derrière nous, je vous ai pas vu.
J'ai essayé d'écouter.
Comme un petit lutin.
J'ai essayé d'écouter aux portes.
Christine, on est dans votre brocante, on est chez vous.
Oui.
Brocante, bouquiniste, labyrinthe de culture, labyrinthe de vieux livres. C'est une citadelle ici, c'est la tour de Babel des livres.
Complètement, oui, oui, c'est vraiment, on a relié la boutique de livres et la brocante juste pour animer, pour... voilà, parce que c'est bien, c'est beau.
C'est fantastique cet escalier.
On a surtout laissé la maison.
Vous avez laissé la maison, alors elle appartenait à qui cette maison ?
Au sabotier du village.
Pardon ?
Au sabotier du village. Ah oui. On a laissé la maison comme elle était et on l'a réunie avec le charcutier. On a pris une partie de la charcuterie d'à côté et on a relié pour en faire un labyrinthe.
Avant, vous étiez brocanteuse
en région parisienne.
Oui,
à Noisy-le-Grand.
Rien à voir ?
Non, rien à voir du tout, du tout, du tout.
Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'être ici ?
C'est génial.
Ses impôts.
Ses impôts, il dit le mot.
C'est une manière de vivre quand même ici.
Vous vous entraidez ? Il y a une solidarité
ici.
Oui,
il y a une vraie solidarité. Et je voulais juste rajouter qu'en fait, la grande particularité par rapport à d'autres commerces, c'est qu'ils sont ouverts tous les jours de l'année, quel que soit le temps, quel que soit... voilà, ils se relaient, Patrick et Christine, pour que les visiteurs soient là le plus longtemps possible, y compris jusqu'à la tombée de la nuit.
Jusqu'à la tombée de la nuit ?
Oui, jusqu'à la tombée de la nuit. Quand ils viennent fermer le soir, il faut, comme je le disais tout à l'heure, faire le tour de ce labyrinthe pour vérifier qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit complètement absorbé par un ouvrage et assis dans un coin et totalement coupé du monde qu'on laisserait ici enfermé dans la boutique.
Christine, vous avez été élevée, comment vous avez été élevée dans la brocante ou pas du tout ?
Pas du tout.
Comment vous êtes tombée dans la brocante ?
Par hasard. Patrick et moi, il y a 35 ans qu'on s'est rencontrés, on a voulu changer de vie. Donc on a changé de vie. On avait un ami brocanteur. Et voilà, ça a démarré comme ça.
Vous faisiez quoi avant de changer de vie ?
Lui était représentant et moi j'étais dans la restauration.
Ah oui.
Voilà.
Pourquoi vous vouliez changer de vie?
On change de manière de vivre lorsqu'on travaille pour soi.
Parce que sa vie, c'est sa vie.
Et on travaille pour soi. C'est ça surtout. On travaille pour soi. On a l'impression qu'on est plus libre, mais comme le disait monsieur le maire, on est ouvert tous les jours. Quelque part, on est encore moins libre qu'un employé, si je puis dire. Mais on a cette impression de liberté.
C'est une illusion de la liberté?
Non, parce qu'on l'a... Si on veut, on peut. Oui. Si je veux fermer, je peux fermer. Malgré que je ne le fasse pas.
Est-ce que dans un village, on vient se refaire aussi?
Nous, c'était le hasard total et on est super bien. Voilà.
Le hasard, c'est quoi? C'est quelqu'un vous parle de Saint-Sauveur?
Non, du tout. Ouais, le hasard, c'était de passer dans la rue et de trouver cette maison, de l'acheter il y a 21 ans. Et après, le hasard, c'est que Noisy-le-Grand s'est agrandi et que le maire nous a plus ou moins poussé vers la sortie. Donc, allez où? Voilà, il y avait une évidence, c'était ici.
Et là, vous êtes à votre place?
Oui, enfin, j'ai l'impression. Oui, bon, de toute façon, on peut être à sa place partout, si on veut.
Ouais.
Voilà. Et là, oui, c'est bon.
Ouais. Vous avez des enfants, vous?
J'en ai deux, sans que ce soit les miens, mais j'en ai deux.
Les deux de votre mari?
Voilà.
Et les enfants, ici, c'est le paradis pour
c'est
les
génial.
Enfants.
Ils jouent à cache-cache.
C'est génial.
Mais même les grands, même les parents, hein, ils se perdent, ils cherchent. Non, non, c'est très drôle, comme c'est un labyrinthe.
C'est une espèce de librairie d'Harry Potter rurale.
Ah ben voilà, ben il a dû m'imiter, parce que nous, ça fait longtemps qu'on est comme ça. Voilà. C'est un plagiat.
Gaëtan qui est quelque part.
Il y a Gaëtan qui est quelque part.
Qui est là-bas, dans la, à l'entrée.
Vous nous présentez Gaëtan, Frédéric?
Gaëtan Prouveau fait partie de ces gens qui font vivre le pays en musique, puisque c'est une violoniste de grand talent qui a déjà derrière, encore devant elle, une immense carrière. Là, elle va partir en Belgique pour un concert demain et elle enchante notamment en été un festival ancien ici qui s'appelle Les Estivales, qui est un festival itinérant, un festival musical. Et elle participe aussi au festival de musique qu'on organise à Saint-Sauveur qui s'appelle Comme ça me chante, où elle est venue à plusieurs reprises.
Là, on s'est perdu, mais on s'est retrouvé. On se retrouve dans la cour avec une violoniste. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes là, Gaëtan.
Je suis Gaëtan, tout à fait.
Gaëtan Prouveau, vous avez fait le Conservatoire National Supérieur de Musique. Oui, vous avez même fait la Juilliard School. Alors ça, je vous envie.
Mais oui, tout à fait. Et j'ai eu la chance de travailler aussi avec un grand maître, donc après mes études à New York, Zino Francescatti, dont j'ai ici le violon, un violon italien, vous voyez, de 1720. Et puisque vous aviez souhaité que je joue quelque chose, j'ai choisi un petit extrait de Ravel. Et pourquoi Ravel? Parce que Colette et Ravel se sont bien connus.
Elle a écrit le livret de L'Enfant et les Sortilèges.
C'est cela, elle a écrit le livret de L'Enfant et les Sortilèges.
Donc vous nous jouez une habanera de Ravel.
C'est ça, une pièce en forme de habanera de Ravel. La habanera étant cette danse cubaine qui est un peu chaloupée.
Cette pièce, elle aurait pu être intégrée dans L'Enfant et les Sortilèges.
Presque, en imaginant que ce petit enfant a des rêves cubains et qu'il rêve de danser avec un chat qui chaloupe avec lui.
Thank you.
qu'est-ce que vous ressentez quand vous jouez du violon, comme ça, au cœur du village?
Ça me fait plaisir par rapport au village de faire quelque chose très modestement. Et donc, même si c'est une pièce qui en général se joue avec piano, qui devrait avoir un autre cadre, mais je trouve que la musique est transportable un petit peu partout, oui. Donc ça me fait plaisir.
Ça nous fait plaisir aussi.
C'est gentil, tant mieux.
Tant mieux. On va continuer à se promener. Nous.
Vous allez vous promener, d'accord, ouais. Très bien.
On va continuer à déambuler avec Frédéric, avec Monsieur le maire. Je ne sais pas s'il est toujours là. D'accord. Il est là-bas.
Il est au bout. Il y a encore à faire. Vous êtes le jour du marché. C'est un bon jour.
C'est un bon jour.
Avec tous les gens qui ont justement cherché l'excellence chacun dans leur domaine.
L'excellence à Saint-Sauveur.
Voilà, l'excellence à Saint-Sauveur, absolument.
Bye bye, Gaëtan.
À bientôt.
On vient de quitter cette rue où il y a la maison de Colette, Frédéric. On est entrés, nous, dans la maison de Colette, hier, quand on est arrivé.
Je vous ai vu.
Vous nous avez vu ?
Oui, je vous ai aperçu en tout cas. Vous étiez dans la bibliothèque du capitaine quand je vous ai vu.
Cette maison, elle est juste là, au milieu de la rue de la Roche. On vous emmène, on y va. C'était hier, mais on y va maintenant.
France Inter. Rendez-vous, place du marché.
On est entrés dans la maison, Sacha.
Dans le vestibule des Colettes, qui mène directement à la cuisine. C'est plutôt une petite cuisine, puisque les Colettes ne reçoivent pas, ou très peu. Ils sont considérés comme des parias dans le village. Et la plupart du temps, elle nourrit que 3 personnes, Sido, le capitaine et Colette, puisque les autres enfants sont en pension. Donc c'est une cuisine qui n'a pas besoin d'être plus grande qu'elle l'est.
Le jardin est incroyable, hein ?
Bah, ce jardin, il est quand même exceptionnel. Il se démarque vraiment des autres. Tout de même, je pense pas que tout le monde ait un aussi beau jardin que Sido. Et dans une de ses lettres, Sido dira même que Colette apparaît hantée par l'ancienne maison et son jardin. C'est vraiment, c'est une partie d'elle, en fait, cette maison. Et Saint-Sauveur en puisait également. La salle à manger.
La table est mise. Les belles assiettes, les verres, les couverts, les serviettes brodées, l'argenterie. On peut s'installer pour boire une soupe.
C'est le projet de la maison, en fait. C'est vraiment une invitation à venir voir la vie des Colettes, la maison des Colettes, telle qu'ils l'auraient laissée s'ils étaient juste partis faire une balade dans Saint-Sauveur en puisée.
Est-ce qu'il y a un endroit, une pièce que vous préférez, vous, Sacha ?
La pièce qui me touche le plus, c'est la chambre de Juliette, la sœur aînée de Colette. Alors Juliette, elle est très triste. Elle passe sa vie à lire. Elle ne fait que lire. Elle en tombe de fatigue. Elle finit par se suicider, elle aura des crises de folie, elle sera alcoolique. C'est vraiment un destin très tragique.
Elle est morte d'avoir trop lu.
Colette dira que la littérature l'avait empoisonnée, donc peut-être.
Mais c'est immense, ça n'en finit pas. C'est le bureau du capitaine.
C'est le père de Colette. Ouais. Cette pièce, elle me touche aussi beaucoup parce que le capitaine, se rêve écrivain. Et à sa mort, on se rend compte que toutes les mémoires qu'il a passées toute sa vie à écrire, il n'y a rien dedans. Il n'a jamais rien écrit.
Il n'a jamais réussi.
Il a seulement relié, en fait, les livres. Il leur a donné de très beaux titres. Ils ne sont pas exposés, puisque la famille s'en est ensuite servie pour tapisser les fonds de tiroir. Ils ont écrit des lettres avec le papier.
Non.
Si, si. Il a écrit quelques poèmes que Colette critiquera. C'est surtout un homme très timide. Un homme qui a du mal à montrer ses sentiments. Colette pensera longtemps qu'elle ne l'a pas connu, qu'il ne l'aimait pas tant que ça.
Et cette petite fille,
Colette a 11 ans. Elle a 11 ans sur cette photo.
Elle a des longs cheveux blonds, une jupe à froufrous, des bottines.
Bah, elle est toujours très belle sur les photos, surtout quand elle est enfant. Sido était vraiment fascinée par sa petite dernière. Elle l'a trouvée magnifique. Elle était très orgueilleuse de la beauté de sa fille.
Le piano. Est-ce qu'on peut jouer sur ce piano ?
Personne ne joue dessus puisqu'on veut garder vraiment ce piano intact. Il leur a réellement appartenu. C'est Marguerite Boivin qui l'a retrouvé. C'était une institutrice à Saint-Sauveur en puisée qui a passé sa vie à chercher et à traquer les objets qui ont réellement appartenu aux Colettes, qui ont été dilapidés par la vente aux enchères.
Alors vous savez, Sacha, que si vous voulez garder ce piano intact, il faut qu'on joue dessus. Il va mourir si un piano qui n'est pas joué est un piano qui ne sonne plus.
À du temps des Colettes, tous y jouaient puisque tous sont musiciens. Mais...
Aïe, mériterait un petit accordage. Vous aussi, vous êtes fascinée par Colette?
Je suis née ici, donc je suis baignée dedans depuis que je suis enfant. Quand j'étais enfant, je voulais être écrivaine, je voulais faire comme Colette. Je m'amusais à recopier tout ce qu'il y avait écrit en barrant des mots pour prétendre que c'était moi qui écrivais.
Qu'est-ce que vous aimez le plus chez Colette, Sacha?
Sacha ?
Sa modernité. On ne peut pas parler de féminisme parce que Colette n'était pas dans le politique. Et c'est peut-être un peu un anachronisme même, mais c'est vraiment une modernité et, pardonnez l'expression, un Jean-Foutisme un peu des règles et des mœurs, de ce qu'on demandait aux femmes à l'époque. C'est quand même toujours très dur de faire ce qu'on veut en tant que femme, surtout quand on le fait comme Colette, vivre avec une femme, s'afficher nue sur scène. Après, ça passe beaucoup mieux de nos jours, mais c'est toujours très compliqué de faire ce qu'on veut quand on est une femme.
C'est un modèle.
Peut-être, oui. Oui.
On vient d'écouter Frédéric Magé.
On vient d'écouter Colaboy, Kid Born in Space.
France Inter. Rendez-vous place du marché. Aurélie Spez.
Nous sommes de retour ici, au Point Bar. Ça va toujours, Jean-Christophe ?
Mais mieux que jamais.
Allez, on s'assoit.
Aïe.
Constantin Lemel, brasseur à Saint-Sauveur ou à côté de Saint-Sauveur ?
En réalité, je suis dans l'autre département, je suis de l'autre côté de la frontière, je suis à Saint-Amand.
Alors, ces bières, vous les faites chez vous ?
Voilà, je me suis installé une brasserie chez moi, par passion pour la bière, et pour aussi l'envie de faire découvrir différents styles de bière qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Ne serait-ce que de leur donner le nom de leur style et non pas de leur couleur, déjà, c'est déjà un grand pas en avant.
On a quoi comme nom ?
Alors la Smash, par exemple, qui est une single malt and single hop, donc un seul type de malt, un seul type de houblon, qui est sur une base de pale ale américaine. Après, sinon, on a la wheat beer, qui est une bière blanche de blé, avec une variante aux framboises. On a la Scottish Export, qui est une base de vraiment une bière très ambrée, très riche en malt. Voilà, ça c'est pour celles qui sont existantes à l'heure actuelle. Là, par exemple, J'en ai une en cours de fermentation qui sera embouteillée à la fin du mois, qui est une bière au pop-corn, à base de pop-corn, et qui a reçu une distinction puisque j'ai reçu un fourquet d'argent, merci, au concours national du musée de la brasserie française.
Cyril, vous nous avez rejoint. Cyril Gillet, vous êtes garde forestier.
Oui, alors je suis garde forestier dans la région depuis 1996 et je suis garde forestier et à côté syndicaliste dans le principal syndicat de l'ONF, le SNUFEN, et c'est à ce titre que je viens vous parler aujourd'hui.
Est-ce que vous avez choisi votre bière, Cyril ?
Moi, je suis plutôt bière ambrée en général et j'ai hâte de découvrir surtout parce que je ne la connais pas.
Celle-là peut être pas mal. Pour une bière ambrée, une scottish, ça marche bien.
Eh bien, va pour une scottish.
Allez, on sert une scottish. Et Claude Besson, vous êtes paysan à la retraite.
Oui, bonjour. Oui, Claude Besson, paysan à la retraite de Saint-Sauveur-en-Puisaye, natif de la commune.
Cyril Gillet, je trouve qu'on a un peu oublié le rôle du garde forestier aujourd'hui.
Alors, le travail du garde forestier, c'est on lui remet en gestion un bout de forêt. Alors, c'est soit plusieurs petites forêts, soit un morceau d'une très grande forêt. Et sur cette forêt, il doit surveiller, marquer les bois, s'occuper des travaux, des coupes, être en contact avec les maires quand les forêts sont communales et faire, je dirais, le lien. Dans ces cas-là, entre la forêt, sa gestion et la commune, et aussi accueillir le public, accueillir les chasseurs, on est gardien de l'endroit.
Depuis que vous êtes petit, vous êtes attiré par la forêt, vous vivez d'ailleurs en lisière de la forêt. Elle est où votre maison dans ce pays-là ?
Alors moi, je suis au sud par rapport à ici. Ma maison est au milieu d'une forêt. C'est une maison forestière, j'ai la forêt à l'est, au nord, au sud et à l'ouest de ma maison. Et c'est presque un rêve de gosse, quoi. Moi, petit, je rêvais de vivre au milieu de la forêt et puis je ne savais pas que le métier de garde forestier existait.
Ah oui.
C'est en fait j'ai commencé par être un mauvais élève à l'école. Puis après, j'ai découvert ce métier et donc je me suis mis à travailler. Et j'ai réussi à devenir garde forestier. Et pour moi, c'était vraiment, un rêve. Parce que je ne savais même pas qu'on pouvait vivre en forêt toute sa vie. Et maintenant, je le vis.
Vous êtes resté un petit garçon dans la forêt ?
Ah oui, moi, alors là, carrément. Même mes collègues le remarquent. Par exemple, je me perds en forêt. Non, je sais.
Oui, on a l'impression que vous connaissez par cœur le terrain, que vous êtes une boussole dans la forêt, à vous tout seul.
Oui, mais moi, je suis un des rares gardes qui se perd. Alors, je me perds déjà parce que j'ai pas un sens de l'orientation vraiment génial, et surtout parce que je me laisse souvent emporter. C'est-à-dire qu'on marche en forêt et moi, j'y découvre toujours des choses. Donc, quand vous découvrez, c'est un peu comme Alice qui continue à avancer et qui va découvrir quelque chose, va de découverte en découverte. Et puis, au bout d'un moment, alors on n'est pas vraiment perdu dans nos forêts, on est égaré. Mais il y a un moment où on n'est plus en lien avec autre chose que la forêt. Ça, c'est chouette.
Ouais.
Mais je crois que tous les forestiers sont un peu ainsi. Ils ont tous cette faculté, à un moment, d'être déconnectés et d'être dans un endroit qui est leur endroit.
Qu'est-ce que vous ressentez au contact des arbres, au contact de la forêt ? Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette forêt ? Qu'est-ce qu'elle vous donne ?
Le plus marquant quand on travaille en forêt, c'est la temporalité. C'est-à-dire que les forestiers ne sont jamais dans le même temps que les autres personnes. Parce que
vous êtes dans quel temps ?
On est dans un temps tout à fait différent. Autour de soi, tout est basé sur un an, 5 ans, 10 ans. Et les chênes qui sont autour de ma maison vont vivre 180 ans. Donc on arrive, on s'occupe d'arbres, on ne les verra pas coupés, on voit des arbres coupés, on ne verra pas ce qui arrive après grandir, on est rien d'autre qu'un instant. Et ça, c'est assez génial parce que le temps, on le juge par rapport à soi-même. Et en tant que forestier, c'est autre chose qui dicte votre temps. C'est le rythme de la forêt.
Votre travail de garde forestier, Cyril, est-ce que c'est un travail aussi de préservation, d'environnement ? De police aussi, de faire attention à ce qu'on abîme par la forêt. Quelle est votre mission exactement ?
Alors, il y a deux missions. Il y a celle que l'on se donne en tant que garde forestier et celle que votre employeur vous donne. Donc, celle que se donnent les gardes forestiers, c'est exactement ça, une mission de connaissance, de surveillance, de police aussi, hein, pour que, oui, ça compte, hein, que l'on ne fasse pas n'importe quoi en forêt. Après, les missions qui nous sont données sont de plus en plus des missions commerciales. On a eu des directeurs de l'ONF qui disaient, par exemple, que la forêt devait être gérée comme un champ de tomates et que les arbres devaient tomber comme des boulons.
Pour vendre le bois ?
Oui, pour vendre le bois. Le financement de l'ONF se fait par la vente de bois. C'est un jeu de dupes. On sait depuis la création de l'ONF, il y a plus de 50 ans, que ça ne fonctionnera pas. Malgré tout, l'État a axé sa volonté vers cela et elle le donne comme directive aux dirigeants de l'ONF d'arriver à ce but-là.
Cyril Gillet, est-ce que vous encouragez les gens qui veulent acheter des forêts ? Qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour la forêt ? Est-ce qu'il y a des règles ?
Alors, il y a des règles. La principale règle en France pour une forêt privée, c'est l'interdiction du défrichement. Donc, on n'a pas le droit de raser une forêt pour changer sa destination. Sa destination, c'est par exemple raser une forêt pour faire un immeuble, raser une forêt pour faire une terre agricole. Il y a des lois là-dessus. Après, celui qui est propriétaire d'un bois, dans ce bois, à part des constructions, parce que souvent c'est des zones non constructibles, elle peut faire ce qu'elle veut. Et si la personne veut se faire son paradis en forêt, ben, il se fait son paradis en forêt.
Et ça reviendrait à privatiser la forêt ?
Ah mais la forêt en France est grandement privatisée. Les trois quarts de la forêt française sont des forêts privées. Il y a un quart de forêt qui sont des forêts soit domaniales, soit des collectivités. Alors collectivités, c'est les communes principalement, les départements, certains établissements publics. Mais la forêt est principalement privée.
Frédéric Magé, Colette aimait la forêt. Elle a écrit un très beau texte sur la forêt.
Vous pouvez vous en faire une idée. Je pense que c'est à ce texte que vous pensez, aux premières pages de Claudine à l'école.
Aux premières pages de Claudine à l'école. Alors attendez, je vais vous le retrouver. Cher bois, je les connais tous. Je les ai battus si souvent. Il y a des bois taillis, les arbustes qui vous agrippent méchamment la figure au passage. Ceux-là sont pleins de soleil, de fraises, de muguets et aussi de serpents. J'y ai tressailli de frayeur suffocante à voir glisser devant mes pieds ces atroces petits corps lisses et froids. Et puis après, on continue un peu plus loin dans le texte. Et puis il y a mes préférés, là elle parle des bois. Les grands bois qui ont 16 et 20 ans. Ça me saigne le cœur d'en voir couper un. Elle est comme vous, Colette, Cyril.
Oui. Ce qu'il y a d'amusant dans le texte, quand elle parle des grands bois de 16 et 20 ans, on voit que déjà Colette est dans le temps d'avant. C'était des bois qui étaient utilisés pour faire le chauffage principalement. C'est ce qu'on appelle des taillis. Et qu'on l'on coupait régulièrement pour apporter du bois de chauffage dans les usages. En plus, ici, il y avait des poteries, donc c'était un des gros usages. Et le chauffage personnel, c'était un des gros usages. Mais c'est vrai que quand on est un humain, on n'aime pas voir son paysage changer trop vite. On se dit, la forêt, elle est immuable. Ce que l'on connaît autour de nous de plus immuable dans le paysage, ce sont souvent les forêts ou quelques vieux bâtiments. Et voyez l'effet que cela crée chez les gens quand ils voient un vieux bâtiment qui tombe en ruine. Eh bien, quand on voit une forêt coupée, c'est exactement la même chose. Si c'est très rapide, c'est un choc, un véritable choc.
Ah non, mais elle, ça, c'est vraiment, oui, ça crève le cœur. Elle dit aussi, les arbres, ça me saigne le cœur d'en voir couper. Hein. Pas broussailleux, cela, les arbres comme des colonnes, des sentiers étroits où il fait presque nuit à midi, où la voix et les pas sonnent d'une façon inquiétante. Je vous imagine Cyril Gillet marchant dans la forêt et faire sonner ces petites branches qui craquent, ces feuilles. Il y a le son de la forêt aussi. Le silence est rempli de la forêt.
Il y a le son et il y a un point que l'on oublie souvent, c'est l'odeur de la forêt. On a dit et répété hein, que Colette était très sensible aux odeurs, aux goûts. Et la forêt, c'est une odeur. Elle qui, dans son jardin, devait adorer l'odeur des fleurs. La forêt, c'est l'opposé de l'odeur des fleurs. La Puisée est une région qui connaît assez fréquemment des averses. Et en forêt, après l'averse, l'odeur qui se dégage, c'est l'odeur de l'humus, c'est l'odeur de ses feuilles. Et ça, c'est
l'odeur de la mousse.
Oui, et toutes ces odeurs-là, c'est
des champignons.
Des champignons, presque en toute saison d'ailleurs. Et ces odeurs-là sont des odeurs qui sont entêtantes, mais d'une autre manière que les parfums.
On va écouter ces ronds dans l'eau. C'est une reprise de Françoise Hardy, et c'est chanté par Musica Nuda, et c'est toujours une programmation de...
Une programmation de Chewbacca.
Tu commences ta vie
bord d'un ruisseau, tout bec que de ces bruits qui courent dans les roseaux, qui montent des chemins, qui filtrent les taillis, les ailes de moulin, les cloches de midi, soulignant d'un sourire la chanson d'un oiseau, tout prenait de plaisir à faire des ronds dans l'eau. Aujourd'hui tout balade dans des eaux moins tranquilles, tout acharne, tout flotte, mais l'amour où est-il? L'ambition a des lois, l'ambition est un culte, tout voudrait que ta voix des ronds dans l'eau. S'il y a tous ces témoins que tu fais dans ton dos, dis-toi qu'il pourrait bien devenir ta ronde dans l'eau, te prendre pour l'idiot, l'idiot de ton village qui lui est resté là pour faire des ronds dans l'eau, pour faire des ronds.
Christophe, vous nous avez fait une table d'apéro super belle.
J'ai rien fait, moi j'ai pris que les locaux. Moi j'ai juste amené les plats.
C'est ça, c'est quoi? Qu'est-ce que je mange là, de la terrine Colette?
Terrine Colette, voilà.
Qu'est-ce que c'est la terrine Colette, Frédéric?
C'est une terrine à base de volaille et de foie gras. Alors je vais briser un mythe, il faut savoir que Colette ne faisait pas la cuisine, elle la mangeait, ce qui est déjà une chose en soi.
C'est presque pareil.
Mais elle a cessé de parler de nourriture dans ses textes et du coup il y a des cuisiniers, des artisans qui ont reconstitué des recettes à la fois traditionnelles de Puisaye et puis des recettes qu'elle aimait beaucoup, dont cette terrine Colette. Et puis un plat plus traditionnel qui est caractéristique de la Puisaye, qui est le frat, qui est une sorte de tarte au fromage frais, absolument délicieuse. On peut manger.
Qui nous amène le frat sur la table.
Voilà, avec un verre de Sancerre, un verre de Chablis, de Coulange ou une des bières dont on a parlé. C'est très frais, c'est très délicieux. En été, c'est vraiment un délice.
On dirait un cheesecake, le frat.
Oui, mais un salé alors.
Salé, ouais. Mmh. Claude Besson, vous le connaissez, Jean-Christophe?
Bien sûr, qui ne connaît pas Claude Besson? Vous avez un souci, Claude Besson est là dans les 5 minutes.
Claude Besson, vous êtes paysan à la retraite. On a pas mal discuté tous les deux hier. Oui. Et. Vous m'avez expliqué la difficulté du boulot de paysan, alors les joies aussi, mais quand même les difficultés du boulot de paysan. Vous aviez des vaches laitières et c'est l'histoire de toute une vie.
Ah, complètement. Ben, mes parents avaient déjà un troupeau de vaches laitières. Et là, j'ai perdu mon père très jeune et je ne me suis pas trop posé la question avec mon frère. On a repris la ferme, on était ados. Et du coup, ben, on a grossi l'exploitation parce qu'il y avait besoin de faire vivre deux familles sur l'exploitation. Et ben, ça m'a occupé une grosse partie de ma vie. Et c'est vrai que ben, c'est pas facile de faire d'autres, de s'occuper de sa famille, de s'occuper de sa commune. Mais je regrette pas.
Vous aviez envie de reprendre l'exploitation ou c'était un devoir un peu moral parce que papa était mort et qu'il fallait quand même faire quelque chose?
C'est clair que quand on a grandi avec ses parents qui se sont échinés à faire fonctionner une ferme, on ne s'imagine pas tout abandonner et faire autre chose, quoi. Mais après, tu ne te poses pas trop la question, tu es dans la tête dans le guidon, tu fais le boulot. Et puis en fait, après, ça a des côtés très intéressants. Être éleveur, bah c'est aussi faire de la mécanique, de l'électricité, construire des bâtiments. Et c'est très varié, en fait. C'est pas que la traite. La journée est très variée, mais elle est très chronophage. Et du coup, ça laisse pas beaucoup de temps pour faire s'occuper de sa famille et d'autres activités.
Hier soir, vous me disiez, j'ai découvert les gens de Saint-Sauveur. J'ai découvert qu'il y avait un village ici quand j'ai pris ma retraite. Ouais. Ça m'a marqué. Parce que je me suis dit, en fait, il n'est pas sorti de sa ferme, Claude. Il n'avait pas le temps, il n'avait pas le temps de s'occuper de ses enfants non plus.
Ouais, c'est clair que si vous interrogez les habitants du village, ils me connaissent peu parce qu'ils ne me voyaient pas. Je n'étais pas du genre à traîner les barres, je faisais les courses qu'une fois par semaine. Et du coup, je bossais du matin au soir, j'étais très peu dans le village. Maintenant, ils me voient tous les jours.
Qu'est-ce qui était difficile? Les enfants. Pouvoir s'occuper des enfants et s'occuper d'une ferme en même temps. Tous les paysans racontent ça.
Ça, c'est surtout compliqué pour la compagne. Parce qu'en fait, moi, c'était mon rêve. J'ai continué la ferme familiale et je me suis pas trop posé de questions. Et c'est vrai que pour la compagne, c'est pas évident de rentrer dans une histoire pareille, de voir son conjoint très peu, en coup de vent, pas d'horaire, souvent des aléas, donc ouais, c'est pas évident. Par contre, mes filles gardent, moi je pense, faudrait leur demander, hein, mais je pense qu'elles gardent un très bon souvenir de leur enfance, parce qu'en fait, t'es quand même au milieu des animaux, au milieu des champs, de la forêt, et puis elles participaient avec moi aux différents travaux, quoi. Elles s'endormaient dans le tracteur, elles couraient au milieu des vaches, elles faisaient boire les petits veaux, il y a des moments très sympas. Enfin, je pense qu'elles n'ont pas eu une enfance malheureuse, mais un père pas très disponible, c'est clair.
Vous avez l'air super content, Claude, quand même, d'être à la retraite.
Ah ouais.
Vous avez l'air détendu.
Ah ben complètement, ouais. Quand t'as plus les horaires, que t'as plus les contraintes, les soucis, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'aléas climatiques. Et je vois le jeune qui a repris la ferme, bah, sa première année, il a fait une mauvaise moisson parce qu'il a fait trop sec. Et il a fait qu'une coupe de foin parce que c'était trop sec. Et bon, moi, ça allait parce que j'avais plus de soucis là, mais c'est pas évident quand même. Hein, c'est de plus en plus compliqué. Donc, d'être déchargé de tout ça, c'est bien. Ouais.
Un paysan à la retraite qui a une exploitation de vaches laitières, ouais, ça gagne combien à la retraite ?
Ah, ben ça, c'est une misère, le paysan. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas cotisé énormément, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus. Je crois qu'il doit y avoir deux agriculteurs en retraite pour un seul qui est en activité. Donc, vu que la MSA est une caisse de retraite indépendante, ben elle peut pas, ou alors sinon, il faudrait demander des cotisations à ceux qui sont en activité énorme. Donc, en fait, moi, c'est moins de 700 euros par mois. Donc, évidemment, mais après, il faut bien se dire que ben, on le savait à l'avance qu'on n'aurait pas une grosse retraite. Donc, ben, maintenant, je vis avec le capital que j'ai pu accumuler, enfin construire pendant ma activité. Et maintenant, ben, je prends sur l'argent que j'ai mis de côté. Mais la retraite ne me suffit pas à me faire vivre, ça c'est évident.
Ce sera à refaire. Vous referiez pareil ?
Non, pas complètement pareil. J'essaierai de. Mais c'est pas évident parce que enfin, quand t'es dedans, tu vis au présent. Donc, non, j'essaierai peut-être de protéger un petit peu plus ma vie familiale. C'est clair. Parce que ça n'a pas été une réussite. Voilà. Bon.
On ne peut pas tout faire, Claude.
Et on ne peut pas tout faire, mais bon, j'ai quand même deux filles qui sont adorables et qui réussissent, donc je pense que je n'ai pas tout loupé.
Je me disais, en écoutant Claude Besson, que si Colette revenait aujourd'hui dans son village, elle reconnaîtrait les habitants. En entendant Claude Besson, j'avais l'impression de retrouver certains personnages de la maison de Claudine ou de Sido. Elle reviendrait là en amie et elle s'installerait ici peut-être avec Claude Besson et elle parlerait des bois, des champs qu'elle a aimés.
Avec Cyril Gillet de la forêt.
Exactement. Donc finalement, c'est une histoire qui se perpétue au-delà du temps. Finalement, il y a quand même des racines humaines à Saint-Sauveur qui sont palpables.
Claude Besson, quand on est paysan et qu'on a des journées de travail qui n'en finissent pas.
Des longues journées.
Ouais, on ne parle pas des 35 heures, c'est clair.
On ne parle pas des 35 heures, on est d'accord. Est-ce qu'on a le temps de lire Colette ?
Hélas, non. Alors, j'ai lu Colette parce que j'étais au collège Colette à Saint-Sauveur, donc quand même, c'était incontournable de lire Colette. Non, je suis vraiment. Alors, Frédéric, je suis désolé. Je connais très peu les œuvres de Colette.
Pas besoin de lire Colette, il vit dans l'œuvre.
Oui, vous vivez dans l'œuvre. Vous êtes un personnage de roman de Colette. Vous vivez dans Colette. Vous le savez pas, mais.
Ouais, bah non, je le savais pas, c'est clair.
On a tous un petit peu de Colette en nous, en fait.
Ouais, on a tous quelque chose de Colette.
Mais bien sûr.
Vous avez vu, j'ai mis mon col Claudine.
C'est vrai, vous avez mis votre col. Il vous va tellement bien. C'est pas un hasard si vous êtes à Saint-Sauveur, vous savez.
Rien n'est dit au hasard. Il n'y a pas
c'est
de hasard.
C'est le destin.
Le destin. Le destin, c'est de terminer cette émission. En beauté.
Oui.
Et de trinquer.
Et de trinquer à la vie joyeuse à Saint-Sauveur.
Frédéric.
On trinque à l'amitié, à Colette et aux éclosions perpétuelles.
Magnifique. Bravo à tous. Merci à tous.
Merci à vous.
Et on se quitte aussi en musique avec nos copains.
Alors Anatole et David.
Anatole et David.
On est ravis de les avoir parmi nous aujourd'hui. Merci à eux.
Habitants de Saint-Sauveur. Bravo à tous, à bientôt et merci. Cette émission a été réalisée par Benoît Thuot et préparée par la grande Marion Philippe. Ouais. Assistée de Julia Martin, la programmation musicale, c'était Djoubaka. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Et demain, vous retrouvez Antoine Lee à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Merci à tous.